Vous écoutez France Musique.
Les traverses du temps. Bonsoir à tous. Vous connaissez bien sûr la comédienne Zabou Breitman, mais connaissez-vous le père de Zabou ? Parce que quand on connaît le père de Zabou, eh bien on connaît encore mieux Zabou. Bonsoir Jean-Claude Deray.
Bonsoir, bonsoir.
Alors vous êtes le père de Zabou Breitman.
On peut dire ça, mais il y a quelques années, quand Zabou a commencé, on disait « Tiens, Zabou Breitman, c'est la fille de Jean-Claude Deray. » Alors on remarque que c'est normal, les gloires se transmettent. Je suis très heureux d'ailleurs de la réussite de ma fille.
Et vous chantez.
Et je chante, j'en suis fort aise, mais c'est pas vraiment ma véritable nature. En fait, je suis un comédien. Alors donc, je chante des chansons, je chante des comédies.
Vous chantez des comédies. Eh bien, on va commencer notre émission quelque part dans les années 80. Et là, vous êtes curieusement en Argentine.
Oui, c'est exact. C'est exact, je suis en Argentine pour écrire, pour co-écrire avec un groupe, une telenovela. C'est ce qu'on appelle maintenant, comment on appelle ça ?
On appelle ça des séries maintenant, chez nous, en Europe. Des feuilletons télévisuels.
Des feuilletons télévisuels, c'est ça. Alors donc, j'étais à Buenos Aires pendant 16 semaines. C'était merveilleux. L'Argentine était en pleine récession. Donc, on vivait largement.
Et le tango était un peu en récession aussi, non ?
Le tango persistait. Je me souviens, j'étais avec un copain là-bas et on allait souvent dans une petite boîte qui s'appelait le Gotan. Le Gotan...
C'est tango ?
Ben exactement.
Moi, en verlan ?
Moi, j'ai cherché Gotan. Qu'est-ce que ça veut dire en espagnol ? Mais non, pas du tout. C'était le tango en verlan. Et il y avait un petit orchestre, enfin, deux, trois musiciens, guitare... piano peut-être, et je ne sais pas quoi. Et les gens dansaient dans la rue. Et c'était généralement des vieux couples. Mais ils dansaient, c'est d'une façon, avec une souplesse qu'ont souvent les personnes un peu grasses.
Et ce n'est pas du tout de la gymnastique comme on voit aujourd'hui, des virtues.
C'est pas une mécanique. Il y a une arme, d'abord, il y a une vraie chorégraphie, et puis ensuite, c'est la pensée qui dirige, c'est pas les muscles.
Et le tango va vous trotter longtemps dans la tête, vous prenez l'avion, vous revenez, et vous entendez du tango là où on ne s'y attend pas.
Oui, j'avais déjà entendu cette œuvre de Jean-Sébastien Bach, mais elle ne m'avait pas frappé.
C'est le concerto, un concerto pour clavecin et orchestre, pour clavier et orchestre.
C'est ça, le numéro 4.
Numéro 5.
Numéro 5. Je l'avais déjà entendu, mais jamais je n'avais entendu jouer par Gould. Et il a une façon d'insister sur certaines notes. Et puis alors, le rythme est un peu différent. Il le fait un peu plus lent que ce qu'exige la partition. Et si bien qu'on a vraiment l'impression d'entendre un tango. Et comme je venais d'Argentine, où le tango est une œuvre symphonique. On ne plaisante pas avec le tango, hein. c'est pas une petite chanson, une chansonnette. Non, non, c'est vraiment une œuvre symphonique là-bas. C'est reçu comme tel. Et là, je me suis retrouvé en Argentine avec Glenn Gould.
Thank you. Vladimir Goltzman à la tête de l'Orchestre Symphonique Columbia, Glenn Gould au piano, dans ce premier mouvement Allegro du concerto numéro 5 pour clavier et orchestre BWV 1005 de Jean-Sébastien Bach. Je dois dire, Jean-Claude Derec, que comme vous parliez de tango, j'imaginais fort bien une chorégraphie de tango.
Absolument, absolument.
Vous allez donner des idées aux jeunes qui sont à Buenos Aires et qui dansent aujourd'hui le tango.
Oui, qui le dansent sur du Jean-Sébastien Bach, ça ne sera pas plus mal. Hein. Remarquez, quand je dis devant des musicologues patentés, quand je parle du tango de Jean-Sébastien Bach, on me regarde un peu de travers. Comme si le tango était une œuvre mineure. Mais non, pas du tout.
Ah, mais s'ils savaient, ces musicologues, que très tôt on vous a mis au piano, me souviens bien, vous saviez lire la musique.
Je lisais la musique. Pas très bien, mais je...
À quel âge ?
Je connaissais mes... À 4 ans.
À 4 ans.
À 4 ans, je connaissais mes notes et je ne connaissais pas encore mes lettres.
Pas d'alphabet ?
Non, j'avais l'alphabet de...
L'alphabet du clavier.
Du clavier.
Et ce piano, c'était agréable ? Vous aimiez beaucoup ça ?
J'aimais tellement ça que mes parents ont décidé de me donner des leçons de piano. J'adorais ça, mais ce que j'adorais surtout, c'était d'improviser au piano. Alors, j'avais un professeur de piano qui se désespérait en me disant « Oui, mais t'es gentil, mais tu travailles pas, Claude, tu ne travailles pas. » Si, j'ai travaillé. Mais enfin, je travaillais à ma façon. D'ailleurs, une nuit, mes parents ont été réveillés par le piano, parce que en état de somnambulisme, j'étais descendu et puis j'avais joué du piano. J'adorais tellement ça. Alors, mes parents ont décidé de faire appel à un concertiste qui était connu à l'époque, il s'appelait Eugène Ruchel, qui avait beaucoup de talent et beaucoup de succès à Paris dans ses concerts, en lui disant « Voulez-vous coacher un jeune prodige ?» Le jeune prodige, c'était moi. Bon. Alors, il est venu, il a dit « Oui, il a des dons. » Il est revenu le mois d'après, il a dit « Oui, mais... » Et donc, ça se travaille. Ça suffit pas. Et puis, au bout de 3 mois, il a acheté l'éponge. Il a dit non, vous ne réussirez jamais dans le piano. C'est pas possible.
Et vous vouliez qu'on entende du Chopin pour évoquer toute cette période. Ah, eh bien, on va écouter ce que vous vouliez entendre, des extraits des préludes opus 28, le numéro 4 et le numéro 12. Et nous écoutons Jorge Bolet au piano. le numéro 4 et le numéro 12 des préludes opus 28 de Frédéric Chopin, interprétés par le pianiste cubain Jorge Bolet. Vous voyez Jean-Claude Deray, de l'Argentine à Cuba, en passant, qui habitait New York d'ailleurs, Jorge Bolet. C'est votre fils qui habite New York, Arthur.
Oui, c'est mon fils Arthur qui habite New York. Oui.
Et alors Arthur, quand il était enfant, il était passionné de musique aussi.
Ah oui, il adorait la musique. Il avait, alors c'était drôle, quand il était tout gamin, enfin quand il avait 8-9 ans, il n'avait pas encore mué, il avait sa petite voix perchée. Je me souviens, on était allé à l'opéra voir Mozart et dans les couloirs de
l'opéra.
De l'opéra Bastille, il chantait la Reine de la Nuit dans la tessiture. Avec sa petite voix de fille. Quoi.
Mais qu'est-ce qu'il aimait écouter, surtout ?
Hein ?
Qu'est-ce qu'il aimait écouter ?
Ah, il aimait beaucoup la musique. Il aimait en particulier Offenbach. Alors, Offenbach, c'était son dieu. Il connaissait, je dois dire qu'il connaissait tout Offenbach. Tout Offenbach.
Vous-même, Offenbach, ça vous a beaucoup inspiré quand vous avez fait du théâtre, parce que vous avez fait du théâtre avec une troupe d'amateurs près de Blois, si je me trompe.
C'est oui. Le théâtre du... Oui, mais je dirais que c'est mon fils Arthur qui m'a, si vous voulez, initié à Offenbach. Et j'avais moins écouté de Offenbach avant qu'il me le fasse connaître. Et le style d'Offenbach, enfin, le style des spectacles offenbachiens, moi, ça me ravissait. Et je m'occupe d'une troupe d'amateurs très performants dans la région blésoise. Il s'appelle le Théâtre du Cercle. Je les coach un peu, je les dirige et je leur écris des spectacles. Et dans presque tous les spectacles, ce sont ou des pièces de théâtre ou des revues. Et dans toutes les revues, il y a des couplets. Et des couplets qui sont dans le style. Je ne suis pas pianiste et compositeur doué comme Offenbach, mais il y a un peu le style d'Offenbach, si vous voulez, dans le burlesque, dans la folie un peu.
Comme dans l'Entrée des Rois, de la Belle Hélène.
Exactement.
Je suis les Poux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour il aime, qu'un jour il aime, qu'un jour il aime, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'en soucie pour pas. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Le roi Ménélas. Le roi Ménélas.
Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Et ce nom seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'un titre plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. C'est Agamemnon. C'est Agamemnon.
La reine.
Voici le roi de la Grèce. Il faut que le cœur s'empresse de
Il est 19h29, vous écoutez France Musique, les traverses du temps, en compagnie de Jean-Claude Deray, comédien, chanteur et papa de Zabou Breitman, ne l'oublions jamais.
Non, et tout à l'heure justement, quand on jouait le Chopin, non c'était le Chopin qui...
Oui,
non,
oui,
non,
non. Le Chopin ou le Bach?
Non, le Chopin.
Le Chopin.
Ça me rappelait que la première partie de l'œuvre, c'est un andante.
C'est un andante, oui. Non,
la Dante, je le jouais au piano. Ah oui, je l'ai joué. Je l'ai joué et je pleurais. Je pleurais, mais ça me fait pleurer. Cette... Et Zabou était sous le piano et pleurait aussi.
Ben là, on riait parce que les rois qu'on entend, c'était quelque chose.
Ah non, là, ça fait pas pleurer.
Là, vraiment pas. Non, les rois de la Belle Hélène de Jacques Offenbach, c'était ce soir enregistré par les artistes du Théâtre National du Capitole de Toulouse, chœur et orchestre sous la direction de Michel Plasson. Eh bien, c'était Gabriel Baquier, Jacques Leroux, Charles Burle, Roger Trentin et Gérard Desroches. On va revenir justement, il y a Zabou, le papa, mais il y a le papa du papa et le grand-papa du papa.
Ah oui, alors là, ça monte très, 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 très loin. Parce que le papa de mon papa, c'est-à-dire mon grand-père, tout simplement, était de la région d'Odessa. Toute ma jeunesse, j'ai entendu parler d'Odessa, de Rostov, de Kharkov, tous ces mots qui reviennent en ce moment.
Dans l'actualité, oui.
Dans l'actualité, hélas. Et c'était donc une famille d'origine juive, des juifs russes. Quant à ma grand-mère paternelle, elle venait de Moldavie, de Kishinev, en russe, Kishinev maintenant, et qui était une sorte de capitale du monde, Rome. C'était probablement une tzigane. Ma grand-mère était probablement tzigane. C'est de cette région-là, d'ailleurs, de Kishinev, que serait partie la grande musique klezmer. Le klezmer est une musique que j'ai entendue beaucoup dans ma jeunesse, sur des phonographes à grand pavillon, bien sûr, avec des disques. Et maintenant, je les écoute avec plaisir. D'ailleurs, le premier film de Zabou, Se souvenir des belles choses, est illustré avec une musique klezmer qu'elle est allée chercher elle-même en Hongrie, en contactant le musicien
hongrois
Ferenc.
Et on va vous écouter parce que vous racontez un peu cette histoire en la chantant. Ça s'appelle Le Minoritaire, ce qui veut tout dire. Et ensuite, un groupe que vous aimez beaucoup qui a un très joli nom, Klezmer Juice, le jus klezmer.
Famille, je vous aime. famille, c'est la mienne. Un grand-papa breton et l'autre juif allemand, des oncles cosaques du Don, une maman née au Mans, natif du 14e. Moi je suis un drôle de gars, j'ai un pied dans la Seine et l'autre dans la Volga. Je suis un minoritaire, mais parmi les minorités, car j'ai pas même un coin de terre ni une langue pour le chanter. Je ne viens pas du Finistère, Corée, Quimper ou Camaret. Je ne viens pas de Montréal, de Québec ou de Trois-Rivières. Je ne sais pas parler le joual ni dire au Christ et Saint-Cyboire. Malgré ma gueule de métèque, de juif errant, moi je suis pas grec. Un grand-papa breton et l'autre juif allemand, des oncles cosaques du Don, une maman née au Mans, natif du 14e. Moi je suis un drôle de gars, j'ai un pied dans la Seine et l'autre dans la Volga. Iroquois, Corse ou Berbère, Breton, Tzigane ou Arménien, quand j'épouse vos colères et vos combats que je fais miens, je vous appelle tous mes frères. Vous pour qui je ne serai jamais rien, je ne pleure pas sur mon sort, mais je sais ce qui m'arrivera. L'héroïsme n'est pas mon fort, mais je ne peux pas baisser les bras, car je serai le seul une fois encore, le seul que l'on crucifiera. Da 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 da. Et maman, eh ben maman, elle est née au Mans.
C'est l'ensemble Klezmer Juice, le jus Klezmer, qui interprétait une chanson qui s'appelle Cigarette, Papyrosne de Hermann Jablokov. Et juste avant, c'était vous, Jean-Claude Deray, enregistré sur le vif. Vous chantiez en vous accompagnant. Ouais. Vous le faites encore?
Oui. Et c'est pas pratique parce que Je cherche un peu mes notes. Mes doigts sont pas... Et puis, disons les choses comme elles sont. Je travaille pas assez.
Vous n'avez pas changé.
Zabou me l'a reproché, m'a dit, je devrais répéter davantage. Tu répètes pas assez. C'est exact, c'est exact.
On ira vous écouter le 30 juin à 20h30 aux Têtes de Poche Montparnasse. Je l'annoncerai à la fin de l'émission à nouveau. Et là, on va vous retrouver maintenant. C'est normal, parce qu'il y a un grand-papa breton dans l'histoire, que vous alliez au Canada, non?
Ah oui. Oui, j'ai... En 52, je crois, en 51, j'ai émigré au Canada. Pas émigré vraiment. En fait, j'allais remplacer Jean-Marc Thibault et Roger Pierre, qui avaient un contrat là-bas, et ils ne pouvaient pas assumer leur contrat parce qu'ils avaient un film à tourner. Alors, comme il y avait un contrat de signer, il fallait qu'ils trouvent des copains. Alors, je suis parti là-bas avec Robert Rollis et une jeune femme, Solange Certain, et nous avons joué le répertoire qu'ils étaient censés produire là-bas. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour le
Québec.
Pour le Québec. Et quand je suis arrivé là-bas, on est resté, on a fait notre travail dans une boîte qui s'appelait le Saint-Germain-des-Prés. Et j'ai dit, je reviendrai. Je suis retourné en France. Et là, j'ai demandé un passeport d'émigrant. Enfin, je veux dire, un visa d'émigrant. Et je suis arrivé là-bas sans rien, sans connaître personne, sans aller. Et j'ai fait ma plot petit à petit, j'ai pris ma place. Et la télévision débutait là-bas. J'ai trouvé tout de suite une place à la télévision. Et je suis devenu un comédien très connu là-bas. Je dois dire presque, j'étais une vedette locale. J'étais vedette de la télévision locale.
Mais ce qui est frappant, c'est que vous allez rencontrer une famille très pauvre qui va devenir un peu votre famille.
Oui, c'est-à-dire une famille un tout petit peu malmenée par la vie. En fait, j'ai découvert très vite que tous ces gens-là étaient d'origine amérindienne et ne le disaient pas. Parce qu'il y avait une sorte de honte qui s'attachait à l'époque, plus maintenant, hein, c'est fini. Mais il y avait la honte d'être un Indien.
Et vous avez donné une guitare à ce jeune garçon qui s'appelle Willy.
J'ai donné une guitare à un de mes petits beaux-frères, car j'ai épousé une des filles de la
tribu
clan. J'ai donné une guitare, il me dit « je ne sais pas en jouer ». Je dis « justement, je t'en donne une pour que tu apprennes et tu vas chanter les malheurs de ton pays chez les Indiens. » The bird, the snake, bound to each other, east and bay, son of the sun, son of the earth. Soul of life, children of world. Et c'est ce garçon à qui un jour vous avez donné une guitare qui est devenu une vedette, en Allemagne en particulier. Oui, il fait des tournées en Allemagne.
Pour chanter son pays sa culture amérindienne.
Oui, ses racines. Et alors,
il s'appelle Willie Dunn.
Willie Dunn, c'était le nom, d'ailleurs Jean Dunn, c'était le nom de ma première épouse. Et j'ai eu une fille qui s'appelle Barbara, et qui a repris d'ailleurs le nom Breitman. Ça s'appelle Barbara Breitman. Et alors, juste retour des choses... et travaille à Ottawa au ministère des Affaires...
Comment dit-on là-bas, indigène, non
autochtones.
Autochtones,
premiers peuples. Les premiers peuples, les autochtones. On ne dit pas indigène, on ne dit pas indien, on dit autochtone.
Et là, on va retrouver Zabou. Zabou, toute petite avec vous, on l'a tout à l'heure rencontrée sous le piano. Et là, maintenant, on va la trouver sous les caméras.
Ah oui. Alors, au début, Zabou ne voulait pas faire ce métier de comédienne. Et puis, je ne sais pas comment elle est venue petit à petit par des rencontres. Zabou aimait beaucoup la musique. Il faut dire qu'elle joue du piano, elle joue de la flûte traversière, elle joue du saxo. C'est pas mal. C'est pas mal, hein ? Elle a même joué dans le métro avec un groupe qui s'appelait 12 degrés 5. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et là, c'est vous qui aviez écrit une série télévisée aussi, parce que décidément, ça vous tient à cœur, qui était tout simplement Thierry Lafronde. Vous êtes bien l'auteur.
Oui, je suis l'auteur, mais je suis surtout l'auteur de Zabou. Je suis l'auteur de Thierry Lafronde. Mais Thierry Lafronde, c'est toute ma jeunesse, parce que j'ai passé ma jeunesse dans un vieux prieuré, dans un village Sologno, qui, chose étrange pour un village du centre de la France, est entièrement cerné de remparts, avec trois portes de ville monumentales. Et là, je jouais à la guerre de Cent Ans avec les petits voyous de la rue, les petits copains, les petits copains de l'école, quoi. Et quand on a fait Thierry Lafronde, Zabou m'a dit « Je veux jouer dans Thierry Lafronde ». Elle devait avoir, 5 ans, 6 ans. Je lui dis « Je te promets, tu seras dans la prochaine série ». Elle était heureuse, elle se voyait déjà avec une robe de princesse.
C'est intéressant, Jacques Deray, d'écouter le générique de Thierry Lafronde in extenso, parce que quel talent, Jacques Loussier.
Oui, c'était formidable. Moi, je lui ai vu écrire la musique d'une des chansons du disque, qui s'appelle... c'est plus ma plus petite. Mais il a écrit cette musique sans instrument de musique. Il était là, il avait...
Sur la table.
Comme ça. C'était formidable. Mais vous savez, quand Zabou a voulu faire du
théâtre,
du cinéma, j'ai dit oui, bravo, j'étais heureux. Parce que de ma naissance, enfin de mes origines juives, je n'ai pratiquement rien gardé. Sauf peut-être, ce besoin de transmission. Et j'ai transmis à Zabou, et Zabou transmet à ses enfants... Et chacun son tour, on transmet. C'est ça. Ça, c'est un fondamental des Juifs.
Alors, la petite fille ou l'arrière-petite-fille, je ne sais pas comment la nommer, elle est chanteuse, c'est ça ?
Elle est chanteuse, oui.
Et c'est la fille de Zabou ?
C'est la fille de Zabou, donc ma petite-fille.
Ah, d'accord.
Et si elle s'appelle ? Vous voulez, la transmission. Et elle s'appelle Kido.
Kido. Et elle habite ?
Ah, ben, ça dépend. Mais elle est très souvent à New York.
Eh bien, on va un peu l'écouter, la Kido.
Je ne suis pas your paradise in Paris. Je suis une page, Parisienne qui paraît qui rit. Oh my chérie, go back rue de Pondichéry. Cause my honey berry, baby I'm running free. Baby, baby, let me be. Ramasse ton cœur, rue Francœur. I never said that I'd be good. I never said pourquoi tu boudes. Je ne suis pas your paradise in Paris. Je suis une parisienne qui paraît qui rit. Oh my chérie, go back rue de Pondichéry. Cause my honey berry, baby I'm running free. Je ne suis pas your paradise in Paris. Je suis une parisienne qui paraît qui rit. Oh my chérie, go back rue de Pondichéry. Cause my honey berry, baby I'm running free.
Votre petite fille Jacques de Rey qui s'appelle Kido.
Jean-Claude de Rey.
Je vous ai appelé comment ?
Jacques.
Oh, Jacques de Rey, mon Dieu, quelle horreur.
Jean-Claude
de
Rey. Non, pas une horreur.
Non.
C'est des chansons,
Jacques de Rey, je ne sais plus maintenant, c'est un musicien, j'imagine, non ? Jacques de Rey. Maintenant, c'est le cinéaste.
C'est le cinéaste.
Oui, voilà. Et Jean-Claude de Rey, votre petite fille, Kido, qui chantait en s'accompagnant à la guitare ici, dans La Parisienne, enregistrée aux États-Unis. Je me posais la question, Jean-Claude. Claude de Rey.
Oui.
Est-ce que c'est la branche bretonne de votre arbre généalogique qui vous a fait prénommer Arthur, votre fils ?
En partie, mais il faut dire que je suis un passionné de l'histoire celte, des Celtes. Mais les Celtes, parce que les Celtes, c'est une civilisation méconnue, qui est souvent traitée à la blague, comme Astérix, etc. Qui fausse l'esprit des gens, car la civilisation celte, qui dépassait par endroits la civilisation romaine, c'est pas parce qu'ils ont été vaincus qu'ils étaient plus mauvais. Ils étaient simplement beaucoup moins aguerris et ils n'aimaient pas la guerre, finalement, même s'ils se battaient beaucoup. Mais ils aimaient, c'était des agriculteurs et Dieu merci, des viticulteurs. Et n'oublions pas que les Celtes ont inventé le tonneau. Les Latins n'avaient que des jarres. Les tonneaux, c'était quand même quelque chose pour garder le vin. Hein.
Et c'est cette passion qui vous amène
à... Qui m'a amené à appeler mon fils Arthur.
Comme le roi.
Comme le roi Arthur.
Et vous aimez beaucoup le roi Arthur de Percel.
Oui, celui-là, alors. Oui, là, j'adore.
Et cet épisode, comment vous le ressentez au pays du froid, quand il arrive au pays du froid ?
Je ne sais pas, ça m'a gelé. Non, ça m'a frappé énormément. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est quoi cette musique ? C'est quoi j'étais ? Ça m'a vraiment sidéré, ça m'a presque paniqué. Je pensais que c'était un truc moderne, complètement déjanté, mais non.
Chanter, 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 ch
William Christie à la tête des Arts Florissants dans ce troisième, cet extrait du troisième acte au pays du peuple du froid de roi Arthur dans Henry Purcell. Jean-Claude de Rais, on va se quitter avec une chanson à nouveau parce qu'on va vous retrouver, je l'annonce maintenant, au Théâtre de Poche Montparnasse le lundi 30 juin à 20h30 et ça s'appelle non pas le One Man Show mais The Old Man Show.
Exactement.
Oh, vous n'êtes pas si vieux Jean-Claude de Rais.
Mais alors, si quand même. Eh bien alors, là, il faut dire que je ne chante pas tout seul. Je chante quelques chansons, mais il y a beaucoup d'invités surprises et de gens qui vont chanter. Zabou va chanter une de mes chansons.
Il y aura Shirley de Dino.
Shirley de Shirley et Dino, qui va chanter. Et je ne suis pas sûr des autres, je ne sais pas.
Et il y a une chanson qui est bouleversante, on va l'écouter pour se quitter, qui s'appelle « Le chien ». Et c'est un homme à qui, justement, qui s'est séparé, je crois, de sa femme, c'est ça ?
Voilà,
qui
une a pris séparation. Le chien.
Et elle est partie avec le chien.
Voilà. Vous n'avez pas le droit de prendre le chien. Il était à moi. C'était pas le tien. Il répondait au nom de Roger. C'est beau, hein ? Il répondait quand ça l'arrangeait. C'était pas un chien de chasse, j'ai horreur des chasseurs, mais c'était un chien de race, il en avait plusieurs. Ce valeureux cabot refusait de faire le beau, il pensait que c'était manquer de dignité. Ce chien intelligent, bien plus que beaucoup de gens, était, ce qui est assez rare, était plutôt un art. Si je lançais sa babale en criant « Va chercher !» Il bougeait pas d'un poil, continuant à se lécher. « Mon maître est pas normal », semblait-il décréter, s'il tenait tant à sa balle. Pourquoi qu'il l'a jetée ? Tu m'as laissé le pire, tu as pris le meilleur. Aussi je dois te dire ce que j'ai sur le cœur. T'avais pas le droit de prendre le chien. Il était à moi, c'était pas le tien. T'avais volé tous mes amis. Il te fallait le chien aussi. Il était blond, il était beau, il sentait bon le croissant chaud. Tous les matins, j'en achetais un, je le partageais avec Roger. Quand je faisais pitié, tassé dans mon fauteuil, il se couchait à mes pieds, me guettant du coin de l'œil. Quand mon cœur débordait d'être trop malheureux, d'un coup de langue décidé, il me séchait les yeux. Resté seul sans mon chien, je ne me sens plus d'envie, je n'ai plus de goût à rien dans ma chienne de vie. Parfois je me demande, même si tu ne vas pas un jour aller le rendre au siège la SPA, et ce serait le pire pour Roger et pour moi. Et je dois te redire que t'avais pas le droit. T'avais pas le droit de prendre le chien. Il était à moi, c'était pas le tien. T'avais pas le droit de prendre le chien. T'avais pas le droit. T'avais pas le droit.
On vous entendait, Jean-Claude de Rais. Vous accompagnez vous-même au piano, vous chantiez.
Oui.
Et vous accompagnerez aussi au Théâtre de Poche lundi 30 juin à 20h30.
Probablement en grande partie, oui, oui, oui. Et même aura... si mon accompagnement est un peu vaseux parfois.
Et maintenant, vous allez retrouver toute votre famille dans ce. Ça sera une véritable famille qui sera avec vous au Théâtre de Poche. Ah, il y aura aussi Vadim Cher, le pianiste russe, peut-être.
Probablement. Et probablement aussi mon petit-fils, c'est-à-dire le petit frère de d'Anna, Antonin Chalon, qui est un jeune comédien.
Il va chanter aussi.
Prometteur. Oui, il chante deux de mes chansons. Et
il y aura combien de chansons? Une quinzaine?
Oh oui, probablement, oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les traverses du temps sur France Musique, Jean-Claude Deray. Merci beaucoup et saluez évidemment Zabou Breitman. Pour faire cette émission avec nous, Xavier Atto, François Pron, Victor Buton, Martine Monnier à la production, réalisation Antoine Courtin et c'est Jean-Pierre Derrien qui vient d'entrer dans le studio pour présenter le concert de France Musique et vous nous amenez à Lyon, Jean-Pierre Derrien.
Absolument Marcel, nous allons à Lyon, un concert de piano par un pianiste australo-britannique qui s'appelle Stephen Hough.